va a tener lugar esta tarde la última de las conferencias que componen el ciclo que habíamos programado en torno a la obra y a la vida de Matisse. Muchos de ustedes, sin duda, han seguido las tres conferencias anteriores, por lo que creo que es ocioso que recuerde quiénes han sido y sobre los temas que han hablado nuestros anteriores conferenciantes. En el día de hoy, en el día de la clausura de este ciclo de conferencias, tenemos la fortuna, la gran fortuna, de contar con un gran conferenciante que va a desarrollar un gran tema. Nuestro conferenciante de hoy es el profesor Marcelin Plainé, reputadísimo crítico de arte, crítico literario, poeta, periodista y responsable, como saben ustedes, de la revista Tel Quel, y que ha publicado un sinfín de trabajos especializados sobre la pintura del siglo XX, no solamente en sus orígenes, sino también en sus momentos actuales. A su pluma se deben estudios importantes sobre la obra, sobre todo, de los grandes americanos Jackson Pollock, Robert Motherwell, Rothko, de Kooning, Kenneth Nolan, etcétera, etcétera. Uno de sus libros, quizá el que mayor fortuna ha tenido en el mundo editorial, ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el español, donde la editorial Gustavo Gili el año pasado publicó esta versión, La enseñanza de la pintura, traducción debida al crítico Javier Rubio, que dice en sus palabras preliminares de presentación de la edición que muy pocos libros como este han llegado a influir de manera tan decisiva en el curso del arte contemporáneo. A esta catalogación realmente impresionante del libro del profesor Plainé, añade Rubio en su preámbulo que resulta imposible entender lo que ha ocurrido en los últimos años en la pintura europea sin referirse a este libro, La enseñanza de la pintura. En el índice del libro, el primer capítulo se refiere precisamente a Matisse. Después de Matisse, el profesor Plainé estudia en su libro a Mondrian, al movimiento Bauhaus y a la vanguardia rusa. La presentación que en mis pobres palabras puedo hacer de Marcelin Plainé está siempre muy alejada de la realidad de una vida de trabajo, de una vida de profesionalidad en torno a las expresiones estéticas y, como decía también en mis palabras anteriores, a la creatividad, ya que Plainé es el mismo un poeta, es el mismo un creador. Gran conferenciante, pues, el que tenemos hoy en la Fundación, gracias una vez más a los desvelos de nuestros amigos del Instituto Francés de Madrid, que se han procurado y nos han procurado a todos la presencia entre nosotros esta tarde de Marcelin Plainé. Pero gran tema también, y sobre todo para un público español. Plainé va a hablarnos de Matisse y Picasso. Una tensión que no me atrevo a calificar dialéctica, él será quien califique, pero que evidentemente está llena de significados de emulación, de competitividad y de liderazgo en movimientos estéticos sustanciales en nuestro siglo, por supuesto en el ámbito de las artes plásticas, pero a mi juicio quizá también desbordando el ámbito de las artes plásticas. Para nosotros españoles nos es muy interesante conocer toda la información que pueda y quiera facilitarnos hoy Plainé sobre la tensión, sobre las tensiones y las relaciones, a veces amistosas y a veces no tanto, entre dos grandes figuras del arte contemporáneo, Pablo Picasso y Henri Matisse. Con este conferenciante y con este tema, la Fundación Juan Mar pone fin, como digo, al ciclo de conferencias que hemos organizado en torno a la obra de Matisse. Para nosotros es una gran satisfacción contemplar una vez más la solicitud de todos ustedes, la audiencia que están teniendo estos conferenciantes en este ciclo, por lo que me atrevo a expresarles en nombre de la Fundación nuestro más rendida gratitud máxime, comprobando una vez más las apreturas y las incomodidades físicas que muchos de ustedes padecen por asistir a estas manifestaciones culturales. Sea todo bien pagado en torno a la personalidad del conferenciante que hoy ocupa nuestra tribuna y a, sin duda, la importancia y el interés del tema que va a desarrollar. Muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor Plainé por su presencia entre nosotros y con mucho gusto le cedo el uso de la palabra.
Mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose remercier la Fondation Marche de son aimable invitation et vous prier ou vous demander ou me faire pardonner cette trop élogieuse présentation. Je vous prie également de bien vouloir excuser la sorte d'incongruité qu'il y a à venir dans son propre pays parler d'un peintre dont on ne connaît pas la langue et soumettre ses compatriotes au pénible protocole de la traduction. Je vous demande de m'en excuser. Et de plus, si je puis dire, de faire l'effort de me comprendre, de comprendre ce qui ici peut me servir d'excuse. L'historien, comme le critique et l'amateur, savent ce qu'il en est des difficultés de traduction qu'impose l'approche de la peinture, qu'impose la nécessité de traduire oralement la grandeur troublante et toujours en dernière instance mystérieuse des signes plastiques que nous proposent les peintres et les sculpteurs. Et je dirais qu'au-delà de cette évidence, il n'est pas d'œuvre d'art qui ne soulève ce problème de communication. Il n'est pas d'œuvre d'art qui, en tant qu'œuvre d'art, ne soulève ce problème de communication tel que l'on peut dire, si nous considérons l'histoire de notre culture, que l'art produit tout à la fois un langage qui n'est qu'à lui et les professions qui auront pour tâche d'en faciliter plus ou moins traduction et adaptation. Les Italiens jouent à ce propos avec les mots et disent « traduttore, traditore ». Peut-être que ce soir, le filtre que ne peut pas ne pas constituer le passage de la langue française à la langue espagnole vous dissimulera heureusement mes propres erreurs. Choisir à l'occasion d'une rétrospective de Henri Matisse, de vous parler de Matisse et de Picasso, c'est en vérité tenter de prendre une précaution supplémentaire vis-à-vis de ces erreurs de traduction, de ces traîtrises de bonne foi que sont le plus souvent les interprétations critiques. Je n'ai bien entendu pas l'inconséquence de penser vous rendre compte en une soirée de deux œuvres aussi importantes et aussi complexe, dont l'établissement a déjà fait et fait encore l'objet d'études en cours. Je pense ici notamment à l'important ouvrage sur Matisse que termine Pierre Schneider, qui je crois est intervenu ici même, et au catalogue raisonné de l'œuvre peinte de Picasso, dont Pierre Dex a édité cette année un volume essentiellement consacré au cubisme et qui s'arrête à l'année 1916. N'étant moi-même ni critique de profession, ni historien de profession, je me permettrai de vous renvoyer à l'importante documentation d'ouvrages spécialisés consacrés à chacun de ces deux artistes pour tout ce qui concerne l'établissement de leur œuvre. Et je me contenterai ce soir, si vous le voulez bien, de partager avec vous, en amateur plus ou moins éclairé, les questions d'ordre général que ne peuvent pas ne pas soulever l'œuvre de ces deux géants de l'art moderne. Nous avons en effet tout à la fois la chance et l'infortune de nous trouver historiquement dans ce que je dirais être une semi-proximité de ces deux œuvres. Nous n'avons pas, comme quelques hommes aujourd'hui encore vivants, participé à leur élaboration et nous sentons pourtant qu'à être moderne, elle participe encore par bien des aspects de notre contemporanéité. Sans doute, ceux qui connurent Matisse et Picasso connurent-ils deux artistes de génie, mais ils les connurent, si je puis dire, dans les limites, dans la fragilité et dans l'incertitude du quotidien. Notre quotidien à nous ne les rencontre que dans l'évidence et la monumentalité de leur œuvre, qui, bornée hier dans l'ordre in progress de la création, pourrait bien encore l'être aujourd'hui et pour longtemps, dans ce que je dirais, être une aveuglante évidence. Choisir de parler ce soir de Matisse et Picasso, c'est pour moi choisir, au lieu de la voix toujours de quelque façon exclusive de la passion, celle du dialogue. Comment deux œuvres et deux hommes aussi apparemment dissemblables furent-ils avec une telle maîtrise et une telle grandeur contemporains? Qu'en est-il de cette apparence et qu'en est-il de cette contemporanéité? Mais tout d'abord, qu'en est-il de cette apparence? N'est-ce pas là la première question que nous posent les arts visuels? N'est-ce pas dans la réponse qu'implicitement nous apportons à cette question de l'apparence que nous qualifions les œuvres d'art? Certes, nous héritons aujourd'hui de l'œuvre de Matisse et de l'œuvre de Picasso comme deux grands monuments de notre culture. Mais devrons-nous nous contenter de reconnaître cela comme ces cartes de touristes qui traversent les musées et se contentent de lire sur l'étiquette qui accompagne chaque tableau le nom et le titre de la toile sans prendre le temps de considérer l'œuvre? Devrons-nous nous contenter d'en vérifier l'identité sans plus nous laisser distraire de nos occupations? C'est sans doute ce à quoi nous engage la semi-proximité dont je parlais tout à l'heure, à considérer Matisse et Picasso comme deux monuments contemporains, contournables dans la connaissance que nous pouvons avoir de leur identité. Est-on plus sensible au caractère ibérique, et l'on se retrouvera dans la proximité de Picasso, plus sensible au caractère latin et méditerranéen, et l'on se retrouvera sans autre question dans l'environnement de Matisse. Mais à être bien l'un et l'autre attachés à ces particularités, ne sont-ils que ces particularités? Leur œuvre ne présente-t-elle pas une dimension qui justement tend à transcender ces particularités dans l'interprétation de ce qu'il est fait contemporain? Nous connaissons tous la provocation de Matisse déclarant que la peinture doit être comme un bon fauteuil. Mais, outre qu'il n'est pas exclu que cette déclaration soit une pointe adressée à Picasso, les deux artistes ne se ménageaient ni l'admiration, ni la critique, ni l'épique, on peut être assuré que si quelques jours Matisse a pensé que la peinture était un bon fauteuil, il ne voulait pas dire par là que ce fauteuil était destiné à des assoupissements. L'œuvre de Matisse montre assez bien combien il a su, et parfois rudement, le secouer, le fauteuil. Au-delà de la contemplation esthétique et de l'hédonisme auquel invite l'œuvre de Matisse, sa contemporanéité avec Picasso nous introduit objectivement au fond du complexe débat historique et culturel qui la constitue. Comme, au-delà de sa constante présence aux aventures ou aux mésaventures de notre siècle, l'œuvre de Picasso, dans ce qu'elle partage avec celle de Matisse, nous introduit à des contemplations tragiques, au moins égales en sublime grandeur à celles du peintre de la danse et de la joie de vivre. Pour revenir sur la dimension, sur la vocation culturelle de l'esthétisme et de l'hédonisme de Matisse, je voudrais insister sur ce qu'il en est de la perception de l'histoire et de l'actualité par un artiste. Une de mes amies, qui est une critique américaine et qui s'appelle Barbara Rose, qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire de la peinture américaine, me parlait récemment du suicide de Rothko. Et elle me disait, Rothko s'est suicidé uniquement parce que sa peinture n'avait pas rempli l'objet qu'il pensait qu'elle devait occuper, qu'elle devait remplir. Rothko était persuadé, Rothko et les peintres de sa génération étaient persuadés que leur peinture allait changer le contexte culturel et la société à l'intérieur de laquelle ils se trouvaient. Or, ces artistes ont connu un grand succès, un succès tout à fait inespéré, et en fin de compte, ils se sont rendus compte que Ce succès ne changeait rien, que leur peinture n'avait rien changé, qu'elle était sur les murs, qu'elle était devenue extrêmement précieuse, mais que cela n'avait strictement rien changé à ce qu'ils avaient voulu changer. Pour un artiste, le monde passe par son art, quel que soit l'artiste et quelle que soit la forme de son art. Le monde passe par son art comme son art passe par le monde. L'effort considérable et sans doute inimaginable pour qui n'y a pas accès qu'implique la création artistique dans un monde qui n'y est pas toujours préparé et qui bien souvent la refuse, le pari absurde qu'est à l'origine la création artistique implique que dans l'économie de l'artiste, tout soit soumis à l'ordre de sa création. Mais cette soumission même est une pensée du monde. Et c'est bien, me semble-t-il, ce qu'il faut entendre lorsque Matisse raconte qu'en mai 1940, allant chez son tailleur, il rencontre Picasso qui lui dit « Comment ? Vous ne savez pas que le front est complètement enfoncé. L'armée a fait la culbute, c'est la débandade, les Allemands approchent de Soissons, demain ils seront peut-être à Paris. » Mais alors, nos généraux, qu'est-ce qu'ils font ? Demande Matisse. Et Picasso, regardant sérieusement Matisse, « Nos généraux, c'est l'école des beaux-arts. » Boutade sans doute, impromptue de Picasso, qu'il nous faut pourtant, comme l'indique bien son interlocuteur, prendre sérieusement. Tout aussi sérieusement que cette déclaration d'Henri Matisse à son fils Pierre, le 1er octobre 1940. « Ce qui me préoccupe, écrit Matisse, c'est l'incertitude dans laquelle on vit et la honte de subir une catastrophe dont on n'est pas responsable. Comme a dit Picasso, c'est l'école des beaux-arts. Si tout le monde faisait son métier comme Picasso et moi faisions le nôtre, ça ne serait pas arrivé. Si tout le monde faisait son métier comme Picasso et moi faisions le nôtre, ça ne serait pas arrivé. » Je pense que c'est une déclaration extrêmement importante en ce qui concerne les rapports de Matisse et de Picasso et qu'elle porte sur un point extrêmement réel pour les deux artistes. N'est-ce pas donner à entendre qu'au-delà, comme en deçà de l'esthétique, l'éthique de ce métier fait à la fois histoire, culture et sens, et qu'avec le plaisir qu'elle nous procure, l'œuvre nous engage aussi dans une praxis. En 1929, Matisse déclare « Je crois à la possibilité d'un art en commun. Les défauts des autres m'instruisent sur les miens. Si travailler, c'est enlever quelques scories de la tradition, plus on est d'ouvriers et plus cela ira vite. » On sait qu'en faisant cette sorte de déclaration, Matisse pensait essentiellement à Picasso. Qu'en fut-il donc de leur communauté, de leurs différences, et de ce qu'ils rivalisaient de génie, leurs contemporains les ont souvent opposés. Et l'on peut dire que cette opposition est mise en scène dès leur rencontre avec les collectionneurs qui vont décider de leur fortune à tous les deux, Léo et Gertrude Stein, qui la même année achètent le nu bleu de Biskra de Matisse et le nu à la draperie de Picasso. Léo Stein, dans un livre qu'il publie à New York en 1947, écrit « Les habitations, les personnes et les tempéraments de Picasso et de Matisse étaient extrêmement contrastés. Matisse portait la barbe, avait du bien et des lunettes. Il était intelligent, libre dans ses propos, mais un peu timide. Il vivait dans une pièce immaculée, avec une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, aussi bien à l'intérieur de sa tête qu'ailleurs, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. » Picasso n'avait rien à dire, sauf occasionnellement quelques étincelles. Son travail se développant sans aucun plan, mais avec le flot immédiat d'une intuition qui persistait constamment jusqu'à épuisement. Matisse était quelqu'un de sociable plutôt que de convivial, et Picasso plus convivial que sociable. Matisse se sentait quant à lui un dans la multitude et Picasso se tenait à l'écart en solitaire. Matisse exposait partout, il cherchait toujours à apprendre et croyait qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de le faire que de voir son œuvre côtoyant l'œuvre des autres. Picasso n'exposait jamais avec d'autres. On sait que marquant cette opposition, les Stein, le frère et la sœur, se partagèrent l'amitié et les œuvres des deux artistes. Gertrude Stein s'est longuement étendue sur les anecdotes de ce duel, d'abord dans l'autobiographie d'Alistoclas, puis dans l'autobiographie de Tout le monde, livre qui confirme sa brouille avec Matisse. Mais qu'en était-il, de fait, de ces deux caractères et de ces deux hommes? Si Picasso est né en 1881 et est de 12 ans plus jeune que Matisse, il est paradoxalement son aîné en peinture. Né en 1869, on peut dire que Matisse n'a jamais touché un pinceau ni ouvert une boîte de couleurs avant 1890, c'est-à-dire avant l'âge de 21 ans. Alors qu'à l'âge de 16 ans, Picasso peint « Science et charité » et voit tour à tour sa toile primée, à l'âge de 16 ans, à l'Exposition nationale de Barcelone en 1897, et lui rapporter toujours en 1897 une mention d'honneur lors de l'exposition des Beaux-Arts de Madrid et une médaille d'or à celle de Malaga. Picasso a 16 ans. On sait que Picasso n'a pas encore 20 ans lorsque s'ouvre en juin 1901 sa première exposition chez Ambroise Vollard, exposition préfacée par le critique Gustave Coquiot. Un semblable événement se produira dans la carrière de Matisse avec la Desserte en 1897. Matisse a alors 28 ans. C'est à propos de la Desserte, qui fera scandale au salon, que Matisse dira « Le public découvrit que j'avais des microbes au fond de mes carafes. » Je retiens ici la précocité du talent de Picasso et la vocation tardive de Matisse dans la mesure où, contrairement à ce que semblent démontrer les faits, ces deux éléments biographiques me paraissent être décisifs de ce qui distinguera, bien sûr, mais plus essentiellement rapprochera les deux artistes, dans la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, selon deux modes de rapport à la création, se manifeste pour ces deux hommes une urgence devant laquelle ni l'un ni l'autre ne se dérobera. Nous nous trouvons ici, selon deux modes, confrontés à l'une des caractéristiques spécifiques de ce que nous nommons l'art moderne, son caractère d'urgence. On en trouve, selon moi, le symptôme dans la précocité de Picasso, et plus encore peut-être dans la commune et double décision de son passage de Barcelone à Madrid, de Madrid à Paris. La précocité de Picasso, c'est d'abord celle d'une maîtrise académique. Le destin et les honneurs réservés à Science et Charité en témoignent. Et c'est sans doute avec cette précocité, mais plus encore dans la décision de rupture et de réflexion implicite que suppose l'installation à Paris, que l'on peut voir Picasso faire face à l'urgence qui le détermine envers et contre tout, c'est-à-dire aussi contre sa précoce habileté, à être lui-même. Matisse, certes, paraît réagir très différemment. Engagé dans des études d'avoué, il passe brillamment son examen de capacité en droit, et ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'immobilisé à la suite d'une opération de l'appendicite, sa mère lui ayant fait cadeau d'une boîte de couleurs, il commencera à peindre et se décidera d'abandonner le droit pour se consacrer à l'art. Matisse s'inscrit à l'Académie Julian, où enseigne Bouguereau, en 1891. Il entre dans l'atelier de Gustave Moreau en 1892. Il y a donc à peine un peu plus de 5 ans entre les premières études de Matisse, d'après Chardin et Ribera, et l'exposition et le scandale de la Desserte au salon de 1897. L'urgence, cette fois-ci, apparemment commandée par la vocation tardive du peintre, est manifeste. Et comme souvent chez Matisse, si explicite que l'artiste la présentera lui-même comme un des éléments moteurs de sa création. En 1952, lors de l'inauguration du musée qui lui est consacré à Kato. Matisse dira, je cite, « C'est avec le sentiment constant de ma décision, malgré la certitude de me trouver dans la vraie voie, où je me sentais dans mon climat et non devant un horizon bouché comme dans ma vie précédente, que j'ai pris peur, comprenant que je ne pouvais reculer. J'ai donc foncé tête baissée dans le travail, avec le principe que j'avais entendu toute ma vie énoncé par ces mots « Dépêche-toi ». Comme mes parents, je me suis dépêché au travail. Poussé par je ne sais quoi, par une force que je perçois aujourd'hui comme étrangère à ma vie d'homme normal. Cette analyse et cette admirable confidence que nous livre Matisse à l'âge de 83 ans, 2 ans avant sa mort, reste à méditer. Quelle sagesse incite alors le vieux maître à nous confier cette folie qui gouverne sa vie, la peinture. Et que cherche-t-il à nous dire en liant cette urgence qui le dépêche dans sa vocation à une force étrangère à sa vie d'homme normal. N'est-ce pas inscrire l'hédonisme de la contemplation esthétique sur le fond d'une bien étonnante perspective? Cette conviction et cette force étrangère à la vie de l'homme normal et telle qu'on les retrouve chez Matisse et chez Picasso, font de ces artistes, je dirais, des sensibilités sismographiques de leur siècle. Et n'est-ce pas d'abord en cela qu'ils dialoguent? N'est-ce pas cela que fondent, que portent, que qualifient les œuvres dont nous devons aujourd'hui assumer tout à la fois l'héritage et la grandeur? L'urgence, bien entendu, qu'il y a pour un artiste à être lui-même, ce lui-même, celui-là même que, comme après Rimbaud, Matisse le dit, celui-là même qui est étranger à la vie de l'homme normal, celui-là même, ce je de l'artiste, qui est normalement et anormalement un autre. Notre proximité, notre semi-proximité avec ses œuvres, ne nous fait-elle pas aussi les héritiers de l'urgence qui les porte et dont, jusqu'à nous, elle témoigne essentiellement aujourd'hui encore? Urgence à se dresser, témoignage, force et pari de la grandeur de l'homme de culture dans la misère de l'homme. Matisse dit-il autre chose lorsqu'il oppose au mufle puant de la guerre qui va ravager l'Europe l'intégrité de sa vocation? Si tout le monde faisait son métier comme Picasso et moi faisions le nôtre, ça ne serait pas arrivé. Et c'est d'abord en cela, me semble-t-il, que les deux œuvres se rencontrent, que les deux hommes et les deux œuvres se rencontrent et que nous les retrouvons, que nous les rencontrons aujourd'hui encore, aussi vivantes, aussi dynamiques, aussi pressées, aussi jeunes que jamais. Mais quel métier ? Et qu'en est-il de ce métier habité par une force étrangère à la vie de l'homme normal? Qu'en est-il du métier du peintre? Quelles conséquences y a-t-il à faire métier d'une anomalie? Quelles furent les conditions qui portèrent dans le même temps l'espagnol et le français à donner cette dignité au métier qu'ils avaient choisi? Recevons leurs œuvres avec l'attention qu'impose leur grandeur et, disons le mot, leur majesté. Mais sans oublier que cette grandeur et cette majesté participent d'abord de la vie qu'elles portent et que nous ne saurions véritablement reconnaître qu'à la partager. Cette vie, la déclaration commune de Matisse et de Picasso devant l'horreur d'une nouvelle guerre, nous dit bien qu'elle se tisse dans le siècle d'une force constructive de résistance et d'honneur. Faudra-t-il toujours qu'elle soit vécue comme une anomalie? Car c'est bien de cela que témoignent les cris, les protestations et le scandale qui accueillent au départ les deux artistes qui sont aujourd'hui les plus grands représentants de notre culture et la fierté de leur pays. N'est-il pas étonnamment symptomatique que Matisse définisse les qualités proprement génétiques de son œuvre en les désignant comme des microbes. Le public découvrit que j'avais des microbes au fond de mes carafes. On sait d'autre part qu'en 1913, à l'occasion de l'Armory Show à New York, le nu bleu souvenir de Biskra de Matisse fut à ce point intolérable au public qu'il fut brûlé en effigie. En 1913. De son côté, le cubisme ne donna-t-il pas lieu à une intervention à la Chambre des députés en France? Une intervention, je cite, contre des manifestations aussi nettement anti-artistiques et anti-nationales. Et nous retrouvons ici Matisse et Picasso, plus voisins que jamais, faisant leur métier comme nul autre. Mais tout de même, quel étonnant métier. Quel étonnant métier qui construit, disons-le, ses œuvres sublimes sur un abîme. Et quel abîme. À nous trouver aujourd'hui, devant la monumentalité de ces deux œuvres, nous pourrions sans doute oublier avec et contre quoi elles furent réalisées. Mais nous y autoriserait-elle? Pourrions-nous encore les voir? Pourrions-nous les voir sans les connaître? Et encore une fois, leur semi-proximité ne nous signifie-t-elle pas, elle aussi, que cet abîme nous est encore proche? Si nous célébrons l'année prochaine le centenaire de la naissance de Picasso, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a tout juste un peu plus de 7 ans qu'est mort celui qui sera, n'en doutons pas, considéré comme le peintre du XXe siècle. Je dirais que le centenaire de la naissance de Picasso, c'est le centenaire de la naissance de la peinture moderne, et qu'en conséquence, une fois encore, Matisse ne peut pas ne pas s'y trouver associé. Mais au-delà, en ce que selon moi, ces deux œuvres sont les témoignages de notre civilisation et les germes de la culture moderne et contemporaine, je dirais que l'on peut d'ores et déjà considérer le centenaire de Picasso comme le centenaire de notre siècle, avec tout ce qu'il comportera et ce qu'il comporte encore de crise et de tragédie. Un siècle que nous avons pour charge de poursuivre plutôt que de l'achever. Lorsque, idéalement si je puis dire, je me trouve seul avec la présence et la mémoire présente de ces deux œuvres monumentales, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au-delà de l'évidence contemplative qu'elles imposent, dans la familière et inquiétante étrangeté de leur charme, elles m'entretiennent du débat d'un siècle dont je ne suis plus, mais que j'emporte avec moi. Hier, elles firent scandale. Aujourd'hui, elles ne le font plus. Que s'est-il donc passé? Je devrais le savoir. Elles le disent, elles le savent, et le plaisir que j'ai de les connaître et de les reconnaître s'en trouve conforté. Lorsque Matisse définit négativement les qualités mêmes qui fondent son art, microbes, anomalies, ne tend-il pas à nous signaler par le détour à la fois le chemin que prend son œuvre et en quoi elle est œuvre de scandale? N'est-elle pas œuvre de scandale par la négation même qu'elle porte? Négation que l'on retrouvera chez tous les artistes du début de ce siècle, dirigés contre l'école des beaux-arts et contre les académies. Mais encore une fois, est-ce bien de cela qu'il s'agit? Certes, l'art de Matisse comme l'art de Picasso ne tarde pas à transgresser toutes règles académiques. Mais ce faisant, que font-ils? Et pourquoi le font-ils? Par simple esprit de contradiction? Par pur goût de la destruction et de l'anarchie? Auraient-ils construit l'œuvre qu'ils ont construite s'ils avaient été les iconoclastes que l'on crut qu'ils étaient? Ceux qui s'en sont tenus là, ceux qui s'en sont tenus à être ces iconoclastes, occupent aujourd'hui leur place dans les rubriques des faits divers culturels et mondains. Nous savons bien par ailleurs que l'Académie ne manquait pas de ce qu'il est convenu d'appeler de bons peintres. Bougreau n'était assurément pas un mauvais peintre, il y a pire. Alors, Alors je dirais que la réaction de Matisse et de Picasso face à la catastrophe de 1940 est bien significative. Ce qu'ils reprochent aux peintres de l'École des Beaux-Arts et de l'Académie, c'est de ne pas bien faire leur métier dans une situation d'urgence où, avec le siècle, ils sont précipités. Il suffit de considérer le climat culturel et social dans lequel furent élevés, vécurent et travaillèrent ces hommes pour se rendre compte combien l'illusion de stabilité et de continuité culturelle qu'entretenait l'Académie était illusoire et, disons-le, mensongère. L'optimisme euphorique de la civilisation industrielle, avec sa foi dans la raison et dans la science, connaît ses premières crises. 1896 ouvrira l'époque qu'il est convenu de nommer de la Grande Dépression. L'unification de l'Italie et de l'Allemagne interviendront sur un marché jusqu'alors dominé par la France et l'Angleterre et donneront lieu à une guerre économique dont les conséquences ne sont pas sans bouleverser toutes les structures sociales et institutionnelles. Tel qu'en témoigne, par exemple, la fondation du syndicalisme en Belgique, l'analyse des économistes anglais et de Marx, et les déclarations du pape Léon XIII réclamant officiellement l'institution d'une plus grande justice entre employeurs et employés. C'est l'époque du développement du colonialisme que, par euphémisme, on désigne alors comme développement des sphères d'influence des grandes puissances. En France, à l'instigation d'Émile Combes, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État qui est votée en 1905. Conduisant à la guerre de 1914, faut-il encore citer l'affaire Dreyfus, qui dure de 1898 à 1906, le boulangisme jouant à l'intérieur l'intention et l'aggravation des problèmes internationaux et des menaces de guerre. C'est sur ce fond que prend naissance l'œuvre des deux artistes qui nous préoccupent aujourd'hui, et c'est en fonction de ce qu'ils en vivent qu'ils peuvent effectivement revendiquer leur négativité comme une éthique, poussée, comme le dit Matisse, poussée par une force étrangère à la vie d'homme normal. Il serait évidemment absurde de se demander ce qu'il serait advenu de l'œuvre de chacun s'ils ne s'étaient pas rencontrés. Pouvaient-ils ne pas se rencontrer? Et n'est-il pas étonnant et significatif que nous sachions sur quoi ils se rencontrèrent? L'année même de la mort de Cézanne, en 1906, les Stein, qui ont acheté la femme au chapeau de Matisse et la jeune fille au panier de fleurs de Picasso, commandent à Picasso le portrait de Gertrude Stein et lui présentent Henri Matisse, dont il pourra voir, 2 ou 3 mois plus tard, la joie de vivre au Salon des Indépendants. Matisse, qui vient de traverser et d'abandonner la contraignante influence du pointillisme, comme il le dit lui-même, par nécessité de s'éloigner de toute contrainte, de toute idée théorique, Matisse s'impose alors comme le maître d'une peinture qui sera qualifiée fauve. Il est alors, comme l'écrit justement Alfred Barre, un Cézannien prématuré. Alfred Barre ajoute « Il comprenait sans doute l'œuvre de Cézanne plus profondément que Picasso ou Braque ne le faisaient alors. » Quant à Picasso, non moins préoccupé par le maître d'Aix-en-Provence, il vient de découvrir cette même année au Louvre les sculptures ibériques d'Osuna et le bain turc d'Ingres au Salon d'automne. De l'un à l'autre, de Matisse à Picasso, l'urgence et la vigilance du métier et de la vérité s'établit en ces années décisives. Picasso n'a pas pu ne pas voir, quasiment côte à côte, sur les murs de l'appartement des Stein, la femme au chapeau de Matisse et le portrait de Madame Cézanne. En cette année 1906, avec la joie de vivre, le parti pris que Matisse tirait de l'étude du nu cézannien et de son étude du bain turc de Ingres justifie effectivement Alfred Barr de qualifier Matisse de Cézannien prématuré. N'est-ce pas dès 1899 que Matisse acquiert le petit tableau des baigneuses de Cézanne qui ne le quittera plus et dont la familiarité dut lui être d'une aide inestimable en cette époque d'invention et de virtuosité formelle. Ce petit Picasso, ce petit Cézanne qui se trouve aujourd'hui au Grand Palais, va vous être projeté, j'espère. Bon. Oui, voilà. Je crois qu'il est important de voir ce petit Cézanne parce qu'on peut voir très bien comment la familiarité de Cézanne va autoriser d'une certaine façon aussi bien à Matisse qu'à Picasso, qu'à Braque ou à Derain par ailleurs, mais à mon avis avec moins de génie, un certain traitement du nu. Cézanne se fait attendre, le voilà. Voilà, Matisse va donc, alors qu'il est très jeune et qu'il commence à peindre, acheter ce petit Cézanne qu'il va accrocher dans son atelier et je pense qu'il ne s'en séparera que 30 ans plus tard pour en faire don au Petit Palais où on peut d'ailleurs le voir encore aujourd'hui. C'est un tout petit tableau où très évidemment l'étude du nu n'est pas tout à fait académique. L'étude du nu est si peu académique que, comme vous le savez, Cézanne était une personne assez timide et il n'osait pas, à Aix-en-Provence, demander à une femme de venir poser nue pour lui et que la plupart de ces nus de femmes sont en partie faits à partir de nus de soldats qui se baignaient dans la rivière. Puisque nous en sommes à Cézanne et à cet admirable petit tableau, je voudrais dire que je ne vais pas parler de Cézanne ce soir, mais que très évidemment, selon moi, Cézanne, s'il vous plaît. Non ! Voilà. Mais que très évidemment, selon moi, la crise dont l'œuvre de Picasso, la crise fondamentale et selon moi fondamentalement culturelle dont l'œuvre de Picasso et de Matisse porte témoignage, se trouve déjà très fortement marquée dans l'œuvre de Cézanne. Et que très évidemment, l'influence de Cézanne sur Matisse et Picasso nous incite dans l'intelligence que nous devrions avoir de l'œuvre de Matisse et de Picasso nous incite très évidemment non pas à nous en tenir à l'histoire du XXe siècle, mais à aller voir ce qui se passe dans le XIXe et dans ce XIXe que Cézanne occupe en maître, ce qui, par la même occasion, va nous entraîner à revoir toute l'histoire de la peinture. Mais Picasso le fait très bien à la fin de sa vie. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. S'arrêter. Vous allez rester dans l'obscurité, non? Picasso a certainement vu chez Matisse la petite toile de Cézanne. Et ne doutons pas que, quelle que soit la différence de leur caractère, les deux hommes ne se soient immédiatement reconnus et fréquentés. Picasso a alors 25 ans et Matisse 37. Et ne doutons pas qu'ils se soient retrouvés dans les jeunes maturités qui les caractérisent. Pierre Dex rapporte à ce sujet un entretien qu'il eut avec Picasso. Je vous lis cet entretien. « Tu allais souvent chez Matisse ?» Grognement de Picasso, bien sûr. Et Matisse venait au bateau lavoir. Picasso s'éloigna en silence et me fit signe de le suivre. Il me montra le portrait de Marguerite, la fille de Matisse, qui date de 1906-1907 et qu'il avait sorti pour le faire photographier. Ça ne te rappelle rien ? Peut-être ai-je suivi son regard sur la toile. C'est Pierre Dex qui parle. Elle a le nez de travers comme tes demoiselles. Il rit comme quelqu'un qui a réussi son coup. Tu commences à savoir lire la peinture. Et Picasso poursuit, il faudrait pouvoir mettre côte à côte tout ce que Matisse et moi avons fait en ce temps-là. Jamais personne n'a si bien regardé la peinture de Matisse que moi et lui la mienne. De ce double regard, les œuvres témoignent. Et non pas seulement de l'échange formel que souligne ici Picasso, mais dans ce regard même, les œuvres témoignent de l'essentiel de ce qui nous préoccupe ici, la qualité de leur échange. Les historiens d'art se sont longuement arrêtés sur ces années qui précèdent immédiatement le cubisme, et j'emprunte les arguments de ma démonstration aussi bien au livre d'Alfred Barr, Matisse et son art, Matisse, son art et son public, publié à New York en 1951, qu'au récent catalogue de Pierre Dex que je vous ai cité tout à l'heure. Cet échange de regards et ce qui le qualifie se trouve, me semble-t-il, particulièrement mis en évidence en ces années 1906-1907, particulièrement mis en évidence dans la mesure, sans doute ou non, ne l'oublions pas, c'est le moment où Matisse et Picasso se rencontrent. Matisse expose la joie de vivre au Salon des Indépendants en 1906. Picasso termine le portrait de Gertrude Stein au milieu du mois d'août 1906. La conception des demoiselles d'Avignon doit, sans certitude, se dater de l'hiver 1906-1907. Picasso, ayant toute sa vie conservé la quasi-totalité des dessins et des études préparant les demoiselles d'Avignon, ce n'est que très récemment que l'on a pu découvrir la complexe genèse de l'œuvre. Pierre Dex publie deux dessins et deux toiles de Picasso qui datent de cette époque et qui, appartenant à la succession de Picasso, n'ont pas été vus. Ces deux toiles et ces deux dessins sont extrêmement liés à la genèse des demoiselles d'Avignon. De 1906-1907, un dessin et une petite toile de 17,5 cm par 13 cm, c'est-à-dire vraiment une toute petite toile, qui a pour titre « Les marins en bordée » et qui semble bien préparer dans sa composition « Les demoiselles d'Avignon » et le dessin d'une tête de femme, d'autre part, dont Pierre Dex nous dit être, par son rythme et son tracé, totalement isolé de la production de Picasso. Dessin où l'on ne peut pas ne pas voir le regard aigu et l'expérience vive et pressée que Picasso pratique de la démonstration de Matisse. Nous touchons ici, en ce qui concerne les deux artistes, au secret le plus intime, et je dirais même quasi alchimique, de la création. Les historiens d'art, éblouis par cette admirable scène primitive, n'ont pas cessé de découvrir témoignages, documents, photographies. Tout le tissu complexe est, disons-le toujours en dernière instance, aléatoire du fantasme. Picasso a-t-il vu la reproduction des cinq baigneuses accrochées au mur de l'atelier de Derain ? A-t-il vu la reproduction de Cézanne que nous avons passée tout à l'heure ? Mais que n'a-t-il pas vu ? Chaque jour, et comment le voyait-il ? Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il voyait l'œuvre de Matisse comme Matisse voyait la sienne, dans, comme disent les Anglais, un challenge à leur mesure. Ce regard où le plus jeune surveille le plus âgé, parce que plus âgé est peut-être plus mûr, et où le plus âgé surveille le plus jeune, parce que plus jeune et peut-être plus dynamique, ce challenge, je dirais qu'il eut pour eux les conséquences les plus heureuses, dans la mesure où ils redoublaient ce que l'un et l'autre vivaient intimement, l'urgence éthique de leur situation d'artiste. Urgence, challenge que Picasso ne manque pas de tenir dès l'hiver 1906, dans ce qui peut être considéré comme la mise en place et l'actualisation de la dimension mythique de l'hédonisme maticien. La joie de vivre est, comme on disait alors, une grande machine de 2,40 m par 1,75 m. Picasso, dès qu'il l'a vu, va s'engager dans une œuvre non moins ambitieuse de 2,43 m par 2,33 m. Il va s'engager à porter le débat formel au lieu caché de son actualisation. Ce sera la notation des marins en bordée, puis le projet des demoiselles d'Avignon, titre dont l'euphémisme ne doit pas nous cacher qu'initialement Picasso passait, si je puis me permettre, de la bordée au bordel. Le premier projet de Picasso est en effet présenté et titré « Le bordel d'Avignon ». D'où, bordel, d'où les marins vont se trouver progressivement exclus pour laisser place aux fantastiques demoiselles. Telle est, dès 1907, la réponse de Picasso à la joie de vivre et à l'âge d'or de Matisse. On va voir si vous voulez bien. Malheureusement, la plupart, Matisse et Picasso sont aujourd'hui deux monuments culturels que très peu de gens osent contester. Ils font partie de l'histoire de la culture moderne, mais il est quasiment impossible de se procurer les diapositives de ces deux artistes. Ce qui fait qu'il est toujours embarrassant d'en parler, dans la mesure où il est extrêmement difficile de présenter leur œuvre. Ceux qui ont assisté à la conférence de Pierre Schneider ont eu, je crois, la chance de voir la joie de vivre, la diapositive de la joie de vivre, qui est en général très très difficile à voir et qu'on ne peut voir qu'à Philadelphie, à la collection Merian. Le nu bleu, qui va être d'une certaine façon un challenge entre Matisse, le nu bleu à Biskra, qui va être un challenge entre Matisse et Picasso dans les années 1907, est en Russie et je n'ai pas pu m'en procurer de diapositives. Je vais donc vous montrer des diapositives qui sont malheureusement pas ceux des tableaux dont je vous ai parlé. Voilà un Matisse qui est aussi proche que possible, quoique un peu plus tardif, de la joie de vivre, et où vous voyez le traitement du nu qui reste très très proche, qui reste très très proche du Cézanne qu'on a pu voir tout à l'heure. Je vous le montre parce que je voudrais que vous voyiez, dans le parcours des diapositives qui maintenant vont se suivre, la sorte de challenge, simplement sans autre démonstration formelle, que vous trouverez très très brillamment mise en évidence chez Pierre Dex et chez la plupart des historiens d'art qui s'intéressent à Matisse et à Picasso. Je voudrais simplement que visuellement vous voyez la succession formelle et le challenge dans l'urgence de la démonstration qui se passe alors entre Matisse et Picasso. Voilà donc les demoiselles. Les marins ont progressivement disparu. Et cela dit, je me demande si on voit alors le challenge très très net avec Matisse sur le traitement du nu. Évidemment, entre ces deux toiles, Matisse et Picasso ont découvert l'art nègre. Vraisemblablement, c'est Matisse qui montre pour la première fois une sculpture nègre à Picasso chez Gertrude Stein, ce qui est un document biographique, mais qui, selon moi, ne veut pas dire grand-chose. Il est vraisemblable qu'au-delà de cette sculpture nègre que Matisse a présentée à Picasso, c'est la visite du Musée de l'Homme à Paris qui va véritablement influencer Picasso dans son rapport à l'art nègre et dans son rapport à l'archaïsme, ou alors et le traitement du nu, le type de traitement du nu, dont je vous dirai quelque chose tout à l'heure sur la signification que j'y accorde, le type de traitement du nu qui va être, et c'est très dommage que nous n'ayons pas le nu bleu, le souvenir de Biskra, qui va être véritablement un enjeu entre ces deux hommes, le type de traitement du nu qui est, je pense qu'il faut le souligner, le type de traitement du nu féminin. Voici ce que cela va produire. Voici ce que cela va produire chez Matisse. Et ça va produire chez Matisse une chose très, très étonnante, à savoir un questionnement. Matisse part d'un questionnement de l'espace cézannien, absolument comme Picasso et Braque vont le faire. Mais le questionnement de Matisse va arriver à produire un espace qui, avec le nu bleu, est déjà avec cette toile, peut être considéré comme pré-cubiste, et qui pourtant ne sera jamais ce qu'on peut définir strictement comme un espace cubiste, qui est peut-être un terme qui serait lui-même à interroger, n'est-ce pas ? On a beaucoup de difficultés, enfin personnellement j'ai beaucoup de difficultés avec l'étude des œuvres de cette époque, dans la mesure où il faut très évidemment et très heureusement traverser le travail considérable qu'ont fait les historiens d'art, qui est un travail très très important, mais qui est un travail qui souffre, selon moi, de tous les problèmes que pose ce que j'appellerais l'idéologie de cette histoire d'art, spécifiquement l'idéologie de l'histoire d'art. C'est-à-dire, par exemple, n'est-ce pas, un type, une façon de caractériser la production de Matisse et de Braque à un moment donné comme cubisme, c'est-à-dire d'entériner en fait une sottise qui a été dite à un moment donné par un journaliste, n'est-ce pas, et de l'entériner dans le vocabulaire même. Or, je crois que dans le rapport que l'on pourrait entretenir, ou que tout l'art moderne incite à entretenir avec lui, le problème du vocabulaire est un problème extrêmement important. C'est un problème extrêmement important parce que je pense que les travaux qui ont été récemment faits dans le domaine des sciences humaines, et notamment de la part de certains chercheurs ou de certains curieux qui ont essayé de comprendre ce qu'il en était du rapport du langage parlé avec les arts visuels, eh bien, je pense qu'il y a un retour à faire sur tout ce que l'histoire d'art a posé à partir de cette question que soulève le rapport à définir entre le langage oral et le langage visuel. Et que par conséquent, si ce problème se pose réellement, tous les termes qui définissent l'histoire d'art, et notamment le terme de cubisme, sont des termes sur lesquels il faut revenir très 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 soigneusement. Il est bien évident que lorsque nous entendons cubisme, eh bien nous ne pouvons pas éviter d'avoir dans la tête la sottise que ce journaliste a imprimée, à savoir qu'il s'agit de toiles qui sont faites de petits cubes. Or, aucune toile cubiste n'est faite de petits cubes. Voilà, et alors ça, c'est un Picasso que vous ne pourrez pas voir à Madrid, et qui n'est pas venu à Paris pour la grande exposition rétrospective. C'est un Picasso qui se trouve à Chicago et qui date de 1916. C'est un Matisse qui se trouve à Chicago et qui date de 1916. C'est un Matisse tout à fait étonnant dans la carrière de Matisse, et surtout en ce que, selon moi, il traite la façon dont Matisse a regardé l'œuvre de Picasso. Je pense qu'on ne peut voir réellement ce Matisse que dans la perspective de cet échange de regards dont je parlais tout à l'heure. C'est un tableau, c'est selon moi un des grands tableaux de Matisse, et certainement spatialement, dans l'ordonnance spatiale des figures et dans l'ordonnance spatiale des plans de ce tableau, c'est certainement un des tableaux les plus complexes de l'œuvre de Matisse. Je voulais vous montrer simplement cette série de tableaux, non pour faire une démonstration formelle, mais pour que visuellement vous ayez une sorte de développement du challenge dont j'ai parlé et qui avait lieu entre les deux artistes. Les demoiselles d'Avignon, en général, elles font une lumière. Les demoiselles d'Avignon sont donc, dès 1907, la réponse de Picasso à la joie de vivre et à l'âge d'or de Matisse. Tel va être, selon moi, le dialogue de ces deux artistes. Dire la double vérité, l'urgence de la double vérité qui les constitue dans la crise, le déséquilibre de leur monde, le nôtre. Peintre, créateur d'images et iconoclaste. Le cubisme, comme je vous le disais tout à l'heure, fut vraisemblablement baptisé par un journaliste mal intentionné. Mais je pense qu'il est tout à fait symptomatique que dès la création du cubisme, on en attribua le nom à Matisse. Or, Matisse n'a absolument pas donner ce nom au cubisme, et je pense que c'est faire injure à l'intelligence de Matisse et au regard de Matisse de penser qu'il aurait prononcé ce mot devant ses tableaux. En ces années 1906-1907, nous voyons manifestement le rapport d'intelligence et d'échange entre Matisse et Picasso, qui témoignent et surenchérissent de talent et de vérité, bouleversant ce qui subsiste d'habitude acquise et désormais mensongère, une image de l'homme et une image du monde que, sans vouloir le savoir, l'homme et le monde ont depuis longtemps abandonné. En ce sens, ces deux artistes sont aussi des artistes profondément réalistes, profondément plus réalistes que le monde dans lequel ils vivent, dans lequel ils vivent, et qui courent vers les catastrophes que l'on sait. C'est la vérité de leur œuvre, la stricte vérité de leur œuvre, qui est intolérable et qui fait déséquilibre dans un monde qui essaie de maintenir une illusion d'équilibre. Entendons-nous, je ne veux pas dire qu'un nu de Matisse ou un nu de Picasso soit un nu ressemblant. À une dame qui demandait à Matisse ce qu'il ferait s'il voyait une des femmes qu'il avait peintes se promener dans la rue, Matisse répond « Je fuirais ». Il n'y a évidemment ni chez Matisse ni chez Picasso une vocation de ressemblance. Ce qu'il y a chez l'un et chez l'autre, par contre, c'est une vocation de vraisemblance. Leur art nous place dans un espace où les critères qui nous sont communs viennent à faire défaut. Il insiste essentiellement sur l'inadéquation entre ce que nous vivons et l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, entre l'inadéquation de ce que vit leur siècle et l'image qu'il se fait de lui-même. Et leur grandeur à tous deux, n'est-ce pas d'abord d'avoir réussi à imposer superbement la logique folle de cette nouvelle, de cette autre image, dressée contre la médiocrité et la bêtise, de cette pensée du monde, dont aujourd'hui encore nous savons si peu pour ne pas dire que nous n'en savons rien. C'est sur cette déclaration de non-savoir que, si vous voulez bien, je m'arrêterai.